VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, il est 18h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 7 octobre 2019. Nathalie Barge à la présentation, voici les titres. En Tunisie, Ennahda et la formation de Nabil Karoui disent être en tête des législatives de dimanche. La police rwandaise a présenté 5 personnes se disant membres des FDLR, auteurs d'une attaque meurtrière. Au moins 2 morts et 16 blessés dans une mutinerie à la prison d'Abéché au Tchad. Donald Trump accuse Nancy Pelosi de trahison après le témoignage d'un deuxième lanceur d'alerte sur l'affaire ukrainienne. L'armée irakienne a admis un usage excessif de la force à Bagdad lors du mouvement de contestation. Et juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. En Tunisie, Ennahda et la formation du candidat à la présidentielle Nabil Karoui disent tous deux être arrivés en tête des législatives d'hier. Les détails avec Yacouba Ouedraogo.
2 sondages publiés par des instituts tunisiens ont estimé que le parti d'inspiration islamiste Ennahda a gagné le plus grand nombre de sièges, 40 sur 217, contre 33 à 35 pour le parti de Nabil Karoui. Les 2 formations qui ont revendiqué la victoire sans donner de chiffres ont exclu toute alliance. De nombreux novices vont entrer au Parlement. Parmi eux, le mouvement Karama de l'avocate islamiste Seyfedine Maklouf, l'autre avocate anti-islamiste Abir Moussi, s'est aussi félicité de l'entrée de son parti au Parlement, excluant tout accord avec Ennahda. Les résultats provisoires sont attendus ce mercredi, d'après l'instance en charge des élections, qui évalue le taux de participation à 41,3%. Le parti arrivé en tête disposera de 2 mois pour dégager une majorité de 109 voix au Parlement pour former un gouvernement. Si les députés ne parviennent pas à se mettre d'accord, un nouveau scrutin devra être organisé. Les Tunisiens doivent retourner aux urnes le 13 pour le second tour de la présidentielle opposant l'universitaire Kaïs Saïd à l'homme d'affaires Nabil Karoui, actuellement en prison.
En Libye, au moins 6 personnes ont été blessées dimanche dans un raid aérien contre un centre équestre près de Tripoli. Le gouvernement d'Union nationale et la mission de l'ONU dans le pays ont accusé les forces du maréchal Khalifa Haftar d'avoir mené l'attaque. Ahmad Al-Mismari, porte-parole des forces pro-Haftar, a nié toute responsabilité dans cette frappe. 5 hommes arrêtés au Rwanda à la suite d'une attaque qui a fait 14 morts dans le nord du pays ont affirmé être des rebelles des FDLR. La police les a présentés hier soir au public. Les détails avec Lionel Gaïma.
Les 5 hommes ont été montrés à la presse hier soir dans le district de Musanze où a eu lieu l'attaque. Ces prisonniers ont affirmé qu'ils étaient membres des FDLR et qu'ils voulaient renverser le gouvernement de Kigali. C'était lors d'une conférence de presse organisée par la police rwandaise. Leurs affirmations n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante. Dans la nuit de vendredi à samedi, des hommes armés de machettes et de couteaux ont mené une attaque dans le district de Musanze, faisant 14 morts. Les forces rwandaises, dans leur riposte, ont affirmé avoir tué 19 terroristes. La dernière attaque des rebelles au Rwanda remonte à décembre 2018. 2 soldats rwandais avaient perdu la vie. Le 18 septembre, l'armée de la RDC a annoncé avoir tué Sylvestre Mudachumura, le chef suprême des rebelles FDLR, à 60 km de Goma.
Au Tchad, au moins 2 morts et 16 blessés dans une mutinerie à la maison d'arrêt d'Abéché dans la province du Wadaï, où l'état d'urgence est en vigueur. La plupart des bureaux et magasins de l'établissement pénitentiaire ont été détruits. L'armée a repris le contrôle après plusieurs heures. Les détenus protestaient contre la lenteur des procédures judiciaires et les conditions de détention. Dans le nord-est de la RDC, près de 200 personnes ont été enlevées entre janvier et septembre dans les Hauts et Bas-Ouélé, indique le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Le bulletin de l'OCHA souligne que les tensions intercommunautaires se sont intensifiées, entraînant des violences périodiques à l'encontre des civils dans les marchés et les champs. Les médecins hospitaliers du Zimbabwe ont poursuivi leur grève ce lundi, malgré les menaces de révocation du gouvernement, et ont lancé un appel au secteur privé, à la population et à l'ONU pour financer la poursuite de leur mouvement. En arrêt de travail depuis un mois, les médecins du secteur public exigent de meilleurs salaires. Ils ne gagnent plus que l'équivalent de 126 $ par mois du fait de la dévaluation du dollar zimbabwéen. Au Mozambique, le chef d'une mission d'observation des élections générales prévue le 15 octobre a été tué ce lundi. Anastasio Matavele a essuyé plusieurs coups de feu alors qu'il quittait à bord de son véhicule un atelier de formation à Xai-Xai, capitale de la province de Gaza, a rapporté un forum de la société civile chargé de l'observation des élections.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, un deuxième lanceur d'alerte brise le silence pour livrer des informations sur l'affaire ukrainienne. Le président américain Donald Trump accuse de trahison la chef de file démocrate Nancy Pelosi. Le point avec John Lindon.
Le président Donald Trump s'en est pris hier soir sur Twitter à la présidente de la Chambre des représentants. Il a accusé des crimes graves, de délits et même de trahison en réclamant sa destitution. Madame Pelosi avait annoncé le mois dernier le lancement d'une enquête parlementaire en vue de la destitution du président. Marc Zaïd, l'avocat du premier lanceur d'alerte, a annoncé l'existence d'un deuxième informateur. Cet agent des services de renseignement reste anonyme. Il ou elle a également fait une déposition protégée par la loi et ne peut pas subir des représailles, selon l'avocat qui affirme que ce lanceur d'alerte a des informations de première main. Donald Trump a réaffirmé qu'il avait l'obligation d'examiner toute corruption possible ou probable pour justifier les demandes adressées à l'Ukraine, mais aussi à la Chine pour qu'elles enquêtent sur Joe Biden et sur son fils Hunter. La plupart des ténors républicains se gardent de mettre des critiques contre Donald Trump, qui a assuré à de nombreuses reprises que sa conversation avec le président ukrainien avait été parfaite.
Par ailleurs, les élus démocrates ont exigé du Pentagone et du responsable budgétaire de la Maison-Blanche qu'ils leur livrent des documents concernant l'affaire ukrainienne. Ces documents qu'ils exigent de recevoir d'ici le 15 octobre sont nécessaires pour enquêter sur les raisons derrière la décision de la Maison-Blanche de suspendre une aide militaire cruciale pour l'Ukraine, selon un communiqué des présidents démocrates des trois commissions qui enquêtent à la Chambre des représentants. L'armée irakienne a admis un usage excessif de la force dans un quartier de Bagdad lors du mouvement de contestation. Après une nuit de heurts à Sadr City où 13 personnes ont péri, le commandement militaire a reconnu un usage excessif de la force débordant des règles de l'engagement et a indiqué commencer à demander des comptes aux officiers qui ont commis ces erreurs. Depuis le 1er octobre, plus de 100 personnes ont été tuées et plus de 6000 blessées dans le mouvement de contestation à Bagdad et dans des villes du sud. Le Pentagone a assuré ne pas cautionner d'opérations turques dans le nord de la Syrie après l'annonce par la Maison-Blanche et du président Donald Trump d'un retrait des troupes américaines de cette région, ce qui ouvre pour Ankara la possibilité de mener une action militaire contre les Kurdes. Le ministère de la Défense a mis en garde Ankara contre les conséquences déstabilisatrices que pourrait avoir une telle opération pour la Turquie, la région et au-delà. Les chercheurs américains William Kaelin, Greg Semenza et leur collègue britannique Peter Radcliffe ont remporté le prix Nobel de médecine. Leur découverte sur l'adaptation des cellules au manque d'oxygène ouvre des perspectives prometteuses dans le traitement du cancer et de l'anémie. Le point avec Arzuma Compaoré.
Leur travail a jeté un nouvel éclairage sur les processus spécifiques au niveau cellulaire que subit le corps lorsque son taux d'oxygène est faible, que ce soit en aidant nos muscles à fonctionner pendant l'exercice ou à s'adapter en haute altitude. La capacité des cellules à détecter l'oxygène est essentielle au développement fœtal et à la création de nouveaux vaisseaux sanguins. La saison Nobel se poursuivra mardi avec la physique puis la chimie mercredi. Cette nouvelle édition des récompenses les plus convoitées au monde culminera avec la littérature jeudi, pour laquelle seront dévoilés deux lauréats au titre des années 2018 et 2019. Le prix de la paix sera décerné vendredi à Oslo. Plusieurs noms sont cités, dont la jeune Suédoise Greta Thunberg, égérie de la lutte contre le dérèglement climatique, ou le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, artisan de la réconciliation avec l'Érythrée. C'est le prix Nobel d'économie qui va clore la saison lundi 14 octobre.
Les prochaines négociations entre les États-Unis et la Chine pour tenter de sortir de l'impasse se tiendront à partir de jeudi à Washington, a annoncé la Maison-Blanche, comme lors des séries de tractations précédentes. Le représentant américain au commerce Robert Lighthizer et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin mèneront les discussions avec une délégation chinoise dirigée par le vice-premier ministre Liu Hui. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans La Minute Éco qui vous est présentée par Nani Talani.
Le Soudan du Sud renégocie un accord pétrolier avec le Soudan qui le contraint à payer annuellement environ 3 milliards de dollars à Khartoum. Les deux pays avaient signé en 2012 un accord au terme duquel Juba devait dédommager Khartoum qui exploitait 70% des gisements pétroliers avant l'indépendance. Les années de conflit ont réduit la production pétrolière et les paiements ont pris du retard. La Côte d'Ivoire organisera une table ronde en janvier 2020 dans le but de mobiliser 616 milliards de francs CFA pour freiner la déforestation. Ces fonds permettront de financer sur la période 2020-2030 la nouvelle stratégie forestière pour recouvrer 6 millions d'hectares en 2030. La Côte d'Ivoire, qui comptait 16 millions d'hectares de forêt dans les années 1960, en a perdu 2 millions d'hectares en un demi-siècle. Pour terminer, le prix des carburants au Zimbabwe a augmenté de plus de 25% dimanche. Le litre de diesel est passé à 15,64 dollars zimbabwéens, soit environ 1 dollar américain, et celui de l'essence à 14,97 dollars zimbabwéens. Un plein de carburant représente la moitié du salaire mensuel du médecin du public.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Plus de peur que de mal pour Mohamed Salah.
Oui, sorti sur blessure en fin de match contre Leicester, samedi, l'attaquant égyptien de Liverpool souffre d'une foulure de la cheville. Mo Salah a été touché sur une intervention du milieu de terrain des Foxes, Hamza Choudhury, dans le temps additionnel du match de championnat remporté par les Reds 2-1. Salah était sorti en boitant et le diagnostic des médecins a révélé une foulure de la cheville. Salah pourrait donc être remis pour le match contre Manchester United le 20 octobre. Il était de toute façon prévu qu'il ne participe pas au match amical de l'Égypte contre le Botswana le 14 octobre prochain pour se reposer.
Le tournoi de l'UEFA a livré ses qualifiés pour le dernier carré.
Deux affiches, Sénégal-Mali et Côte d'Ivoire-Ghana. Pas de grande surprise dans les quarts de finale. Le Sénégal a sorti le Bénin physiquement épuisé par son match de deux jours plus tôt. Le Togo s'est arrêté devant la Côte d'Ivoire et dans le même temps, le Ghana a assuré devant le Burkina Faso et le Mali a dominé la Sierra Leone. La compétition entre dans sa course finale à partir de demain et offre un bouillant Sénégal-Mali. Dans le tableau du tournoi de consolation, ils seront également à l'étape des demi-finales avec d'un côté le Cap-Vert opposé à la Gambie et de l'autre la Guinée contre le Libéria.
Athlétisme avec l'épilogue hier des championnats du monde à Doha.
Les États-Unis terminent en tête du tableau des médailles avec 29 au total, dont 14 en or. L'Afrique s'est classée deuxième grâce au Kenya qui a remporté 11 médailles, 5 en or, 2 en argent et 4 en bronze. Soit la même répartition il y a 2 ans à Londres. L'Éthiopie, la deuxième nation africaine, a fini cinquième. Au total, 9 pays africains ont remporté des médailles, un nouveau record au championnat du monde. L'Afrique du Sud, qui avait fini troisième en 2017, a achevé son tournoi avec un 0 pointé, une première depuis 2007. Le Burkina Faso a fait aussi son entrée dans le Conseil des Nations médaillées aux Mondiaux d'athlétisme avec la troisième place historique de Fabrice Zango en triple saut.
Rugby avec la Coupe du Monde au Japon, la Namibie a été corrigée par la Nouvelle-Zélande.
L'un des représentants africains dans cette compétition n'a pas résisté face au double champion du monde en titre largement vainqueur 71-9. Les All Blacks doivent encore battre l'Italie ou se contenter d'un match nul ou d'une défaite simple avec bonus défensif pour assurer leur qualification. La Namibie, dernière de la poule B, est éliminée de la course au quart de finale. Par contre, l'Afrique du Sud, qui joue demain le Canada, permettra à l'Afrique, en cas de victoire, d'avoir un représentant au second tour.
Merci beaucoup, Yacouba, pour cette page sportive.
«
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez bien Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Nathalie Barge, en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Au Cameroun, le président Paul Biya a amorcé une détente. La plus importante recommandation du récent Grand Dialogue National est la mise en place d'un statut spécial pour les régions anglophones, leur concédant un peu plus d'autonomie politique et financière. Le chef de l'État a également ordonné la remise en liberté des principaux responsables de l'opposition, dont Maurice Kamto. Pour une analyse, Jacques Aristide s'est entretenu avec Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines.
Je crois que le président, en libérant ses prisonniers politiques et en proposant un dialogue, je crois qu'il a décidé qu'il ne peut pas gagner par la force des armes. Il ne peut pas vaincre les séparatistes ou les autres anglophones. Donc ça, c'est une bonne chose. Et deuxièmement, je crois que en libérant M. Kamto, qui est francophone, il a reconnu qu'il y a des francophones qui sont marginalisés, juste comme les anglophones. Et s'il continue sur la même route, il risque d'avoir le même problème dans les régions francophones qu'il a dans les régions anglophones.
Les réactions n'ont pas tardé. Washington salue une étape constructive vers la réduction des tensions politiques. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lui encouragé le Cameroun à continuer à adopter davantage de mesures de confiance et de réconciliation. C'est ce qu'il va faire d'après vous?
Oh, j'espère. Oui, non, je crois qu'il a décidé qu'il faut continuer sur cette route vers la paix, parce qu'autrement, il sera en grande difficulté. Il risque d'avoir des grosses difficultés dans le pays francophone autant que dans le pays anglophone. Et je crois qu'il cherche un médiateur maintenant. Je crois qu'il y a les Suisses qui ont proposé. À mon avis, les États-Unis sont en meilleure position pour être neutre et donner une médiation.
La plus importante recommandation du Grand Dialogue National concerne le statut spécial pour les deux régions anglophones. Concrètement, ce statut, que va-t-il changer dans ces régions et va-t-il dénouer le conflit meurtrier qui sévit depuis deux ans?
Avant 1972, les régions anglophones étaient 90% indépendants. Ils avaient leur parlement, ils avaient beaucoup de choses. La seule chose qu'ils partageaient avec Yaoundé, c'était l'armée, la monnaie, la défense, etc. Donc, et ils ont voté pour ça en 1962, sous le mandat des Nations Unies. Quand Yaoundé a fait un référendum pour écraser cette situation, il était illégal, à mon avis. À mon avis, la meilleure solution, c'était de retourner à la fédération qui existait avant 1972.
Mais les indépendantistes, eux, rejettent catégoriquement ces conclusions et parlent d'enfumage. Que va-t-il se passer d'après vous?
Oh, je crois qu'ils ne sont pas en majorité. Ils font beaucoup de bruit. Je le comprends, mais ils ne sont pas en majorité. Et ils ne réfléchissent pas. Qu'est-ce que nous allons faire si nous sommes indépendants? Est-ce qu'on va payer la défense? Yaoundé ne va pas nous défendre. Est-ce que nous aurons assez d'argent pour tous les bénéfices que la population a besoin? Donc, il faut réfléchir. Et ils n'auront pas le pétrole qui est dans la mer à côté. Ils n'auront pas ça. Il ne faut pas se faire des illusions. Donc, je crois qu'il faut réfléchir. Est-ce que c'est viable d'être indépendant? Je crois qu'ils vont décider que ce n'est pas viable. Et il faut penser à une solution ensemble, rester ensemble avec les francophones, mais avec une certaine autonomie.
C'était l'ancien diplomate américain Herman Cohen, joint ici à Washington.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Au Sénégal, les cas de noyades dans la banlieue dakaroise sont toujours aussi fréquents et les jeunes sont les plus exposés à ces drames. Entre juillet et septembre 2018, 56 jeunes ont perdu la vie selon les chiffres des sapeurs-pompiers, tandis que cette année, les noyades se multiplient au même rythme. Une situation alarmante qui persiste malgré certaines mesures prises par les autorités. Seydina Abagay est allée à la rencontre des riverains à Dakar, qui sont généralement les premiers à trouver des corps.
De la plage des Parcelles à celle de Guédiouaï, en passant par Golfe, Malika et Bessayao, le littoral qui longe la banlieue de Dakar enregistre de nombreux cas de noyade durant les grandes vacances. Une situation que les riverains vivent avec désarroi. Alassane Faye a assisté à plusieurs repêchages de corps et il estime que les mesures de sécurité doivent être renforcées à tous les niveaux.
Bon, en vérité, c'est très grave ce qui se passe là. C'est vraiment une zone très dangereuse où les noyades sont très récurrentes et la baignade très risquée. Bon, je pense que les mesures à prendre en ce qui concerne les familles, c'est de retenir les enfants de moins de 15 ans, même 18 ans, pourquoi pas, parce qu'on a remarqué que seuls ces enfants-là sont victimes de noyades ici. Voilà, je pense que les mesures à prendre sont d'ordre familial d'abord.
Pour ce riverain ayant requis l'anonymat, les parents sont les principaux responsables car ils laissent des enfants innocents aller à la plage sans contrôle.
Pour moi, c'est les parents qui ne surveillent plus les enfants. Parfois, ils sont très nombreux à passer par ici pour aller à la plage. Et généralement, ils n'ont même pas 10 ans. Actuellement, l'éducation des enfants manque énormément. Et personne ne respecte personne. Et les enfants n'écoutent plus.
Les autorités ne peuvent pas assurer la surveillance de toutes les plages. C'est l'avis de Djibril Diouf. Pour lui, les parents doivent davantage assurer l'éducation de leurs enfants et veiller à leur sécurité.
Si chacun s'occupait convenablement de ses enfants, avec des recommandations précises, il n'y aurait pas de problème. Les autorités ne peuvent pas tout faire. Avant de les indexer, moi je pense que les parents sont les premiers responsables, car ils ne surveillent plus les enfants. Avec un simple contrôle des parents, l'autorité n'aura rien à faire, parce que l'enfant est déjà bien éduqué et il n'osera même pas aller dans les plages.
Tout d'accord. Je sais que c'est mon intérêt.
Entre 2015 et 2018, 1023 jeunes ont perdu la vie dans les plages. Des chiffres officiels de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers du Sénégal qui montrent l'ampleur des cas de noyade malgré les mesures prises par les autorités, avec notamment la présence massive des maîtres nageurs et sauveteurs. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
L'ambassade des États-Unis au Togo soutient le financement de 17 projets communautaires pour un coût de 35 millions de francs CFA. Cette contribution a été accordée dans le cadre du programme d'auto-assistance visant à répondre aux besoins urgents des communautés pour un développement local harmonieux. Les détails avec Kayi Lawson à Lomé.
Que ce soit l'équipement, la construction des infrastructures sanitaires et scolaires ou l'achat du matériel de transformation de produits agricoles, le programme Self-Help de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique met à la disposition des communautés de petits financements qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations à la base. À Kolor-Hilibwe, à environ 50 km au nord de Lomé, le manque de moulins de maïs dans la localité constitue un facteur favorisant la déscolarisation des filles. Kwami Pogo, natif de Hilibwe.
Dans le milieu de Hilibwe, nous avons un problème de moulins. Donc les femmes sont obligées de se déplacer dans le village de Kolor à 3 km. Ce qui crée des problèmes, surtout pour les jeunes filles. Ce qui entraîne aussi des fois la déscolarisation, puisque la fille est obligée d'aider sa maman pour aller écraser le maïs. Et elle revient en retard et va à l'école de femmes. Mais derrière, c'est une fille qui abandonne à cause de Sarah.
Pour permettre aux filles d'avoir les mêmes chances que les garçons, un projet d'érection de moulin a été monté et qui a bénéficié d'une enveloppe d'1 800 000 francs CFA. Afi Djoudi explique ce que ce moulin peut changer dans la communauté de Hilibwe.
Un moulin avantagerait nos jeunes filles à aller régulièrement à l'école. Parce que des fois, s'il n'y a pas de farine à la maison, nos fillettes sont obligées d'aller au moulin et toute la matinée, ils restent à la maison.
Le programme Self-Help tient aussi compte des minorités, notamment les personnes en situation de handicap. La coopérative La Semence Divine, qui produit du riz à Kovie à une trentaine de kilomètres de Lomé, va pouvoir étendre son exploitation grâce à l'appui américain. Et Sobiou Aouli de cette coopérative.
On a beaucoup de difficultés, tant pour la main-d'œuvre que pour le traitement, une fois récolté du riz. Donc l'appui qu'on a demandé consistait à acheter plus d'équipements.
Aujourd'hui, le programme Self-Help ne finance plus que des projets sociaux. Il vient aussi en appui aux jeunes entreprises à caractère social comme l'affirme l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Togo, Eric Strohmayer.
Ce sont les petites initiatives d'entrepreneuriat qui ont besoin d'avoir quelque chose pour les démarrer. Et alors si nous, on peut fournir ces petites choses avec la main-d'œuvre et la capacité de l'entrepreneuriat togolaise, c'est l'avenir du pays qu'on essaie d'établir. Ce sont les petites choses qui avancent l'économie, qui avancent les avenirs des jeunes à travers le pays, qui peut mener à la croissance économique dont on veut voir ici dans le pays.
Depuis ces deux dernières décennies, ce sont plus de 400 projets qui ont été financés par le programme d'auto-assistance de l'ambassadeur. Des projets qui encouragent l'amélioration des conditions de vie des populations à la base sur le plan de l'économie, de l'éducation, de la santé et du bien-être social. Kyle Hanson, Lomé, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Dans le nord du Nigeria, 112 écolières enlevées par les islamistes à Chibok il y a 5 ans et demi ne sont toujours pas retrouvées. Ce week-end, les activistes du mouvement Bring Back Our Girls, qui se bat pour leur libération, ont marqué ces 2000 jours de captivité des jeunes filles pour attirer à nouveau l'attention des autorités fédérales. Le point avec notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
Ils étaient plus d'une centaine d'activistes et certains parents des écolières réunis à la place de l'unité à Abuja pour réclamer une fois de plus la libération des 112 filles. Les combattants de Boko Haram avaient pris d'assaut l'école secondaire publique pour filles à Chibok dans l'état de Borno le 14 avril 2014. Plus de 200 filles sont enlevées, mais 57 des filles se sont échappées et ont retrouvé leur chemin à la maison. Le gouvernement fédéral a ensuite négocié avec les ravisseurs qui ont libéré 107 filles, laissant 112 autres en captivité il y a de cela plus de 2000 jours. Depuis, les écolières sont devenues le symbole des victimes de l'insurrection de Boko Haram qui ravage le nord-est du Nigeria. Pour marquer les 2000 jours de captivité, les activistes du groupe Bring Back Our Girls, créé pour lutter pour la libération des écolières, ont exposé plus de 112 paires de chaussures portant les noms des écolières disparues. Florence Ozo est membre du groupe.
Le travail du gouvernement est de protéger et de sécuriser ses citoyens lorsque des incidents pareils se produisent. Et le travail des citoyens est de rassurer que le gouvernement n'oublie pas son travail. Et c'est ce que nous faisons.
Les parents des 112 écolières du Chibok déplorent que le gouvernement fédéral n'ait pas réussi à libérer les filles enlevées il y a plus de 5 ans. Tunde Adebiju est venu exprimer sa préoccupation.
2000 jours, cela fait 5 années et 6 mois que les filles ont été enlevées. Cet enlèvement signifie qu'il y a eu de sérieuses défaillances. 112 filles, si ces filles étaient des filles d'un gouverneur par exemple ou d'un haut cadre du cabinet ministériel, toutes les agences de sécurité serait mobilisée pour les retrouver. Vous ne pouvez pas dire que c'est parce que leurs parents sont pauvres que vous n'allez rien faire.
Certains parents des écolières portés disparus ne sont plus en vie. D'autres sont malades et certains sont traumatisés par l'absence de leurs enfants. Le président nigérian Muhammadu Buhari a toujours déclaré que le gouvernement restait mobilisé pour parvenir à leur libération. Mais les parents attendent encore de voir la promesse du gouvernement se réaliser. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Lionel Gaïma. À la console, Odouyos Regis. À la présentation, c'était Nathalie Barge. On se retrouve dans un instant pour un rappel des grands titres. A tout de suite.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.